France Musique. Brut d'accordéon. Félicien Bru, France Musique.
Chères auditrices, chers auditeurs de France Musique, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 19e épisode de Brut d'accordéon. Car aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un fabuleux destin d'accordéoniste, mais un destin féminin. Et il faut reconnaître que durant longtemps, ils n'ont pas été nombreux dans le monde de l'accordéon. Si l'année 2021 marquait le centenaire de la naissance d'Astor Piazzolla, en 2022, nous fêtons le centenaire d'une des plus grandes figures populaires de notre instrument. Je veux bien entendu parler de la grande Yvette Horner. Alors Yvette, c'est bien plus qu'une musicienne, c'est une icône, c'est le symbole d'une époque. Il ne passe pas un mois sans qu'à la sortie d'un concert ou lors d'une interview, on me parle d'elle, on me questionne. Et alors Yvette, vous l'avez connue? Qu'est-ce que vous pensez d'Yvette Horner? Et les cheveux? Et la robe d'Yvette? Alors c'est un cliché qui vous embête? Voilà les questions que j'entends souvent, que tous les accordéonistes entendent souvent, j'en suis sûr. Alors nous allons profiter de cette émission pour retracer l'incroyable parcours d'Yvette, mais surtout pour l'écouter, dans des registres où peut-être vous l'attendez moins d'ailleurs. Car Yvette, c'est un phénomène, une personnalité bien plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Mais pour entamer cette émission, je vous propose de laisser souffler une bourrasque, cette valse magnifique, cette valse musette sous les doigts de la reine du bal populaire. Yvette Horner à l'accordéon et son orchestre dans cet enregistrement de 1982 d'une célèbre, très célèbre valse musette, Bourrasque, une composition de Michel Péguri et Jean Perronin. Alors Yvette est née il y a bientôt un siècle, le 22 septembre 1922 à Tarbes. Elle grandira à Rabastens de Bigorre, un petit village des Hautes-Pyrénées, et elle ne se départira d'ailleurs jamais de son magnifique accent chantant du sud-ouest. Yvette est fille unique, son papa est entrepreneur en bâtiment, mais c'est sa maman passionnée de musique qui va l'inciter toute petite à choisir un instrument. La fillette jette son dévolu sur le piano. Elle va travailler aux côtés de Marguerite Lacoste, son premier professeur, puis entre dans la classe de piano du conservatoire de Tarbes. indéniablement douée, la jeune fille finit par être orientée vers le conservatoire de Toulouse où elle obtient son prix de piano très jeune, à 11 ans seulement, en 1933. Rien ne prédisposait donc Yvette à devenir la reine de l'accordéon. Elle aimait le piano, passionnément. La preuve, tout au long de son immense carrière d'accordéoniste, elle continuera à trouver du temps, un peu de temps au moins, pour son premier instrument. Voici un beau témoignage de cette passion de jeunesse, un enregistrement réalisé en 1987, où vous entendez Yvette non pas à l'accordéon, mais au piano, dans cet allegro de concert d'Enrique Granados. Un extrait de l'Allegro de concert de Granados par Yvette Horner au piano. Alors c'est à nouveau sur les conseils de sa maman que la jeune Yvette va délaisser le piano pour l'accordéon. À l'époque, et c'est difficile à croire aujourd'hui, il est bien plus facile de faire carrière en étant accordéoniste que pianiste. Surtout que le milieu de l'accordéon français est exclusivement masculin et la mère d'Yvette lui fait cette confidence qui se vérifiera. « Tu sais ma fille, des accordéonistes femmes il n'y en a pas, et là tu pourras te faire une situation. » Elle avait ô combien raison. Yvette s'empare donc du piano à bretelles. Elle monte pour la première fois sur scène avec son accordéon au Théâtre Impérial de Tarbes, devenu aujourd'hui le Théâtre des Nouveautés, et qui est à l'époque tenu par sa grand-mère paternelle. Mais dès 1937, elle part pour Paris. Elle va suivre les cours de Robert Bréard et commencer à participer à plusieurs concours d'accordéon. Si Yvette a accepté d'abandonner le piano pour l'accordéon, il n'est pas encore question pour elle d'abandonner la musique classique pour la musique populaire. C'est bien la deuxième rhapsodie hongroise de Franz Liszt que nous entendons à l'accordéon, enregistrée et superbement interprétée en 1950 par Yvette Horner. passionnée depuis son plus jeune âge par la musique classique, Yvette va adapter pour son accordéon tout un tas de pièces du répertoire. Elle se fait ainsi remarquer très vite dans de nombreux concours. Et en 1948, elle remporte la Coupe du Monde d'accordéon, un des grands concours internationaux de notre instrument qui existe encore aujourd'hui. Ce début de carrière est rendu possible, c'est aussi grâce à une rencontre déterminante dans la vie d'Yvette. La rencontre avec son futur mari, René Drosch, en 1936. Yvette et René vont tomber follement amoureux l'un de l'autre, un amour qui ne s'éteindra jamais. Drosch est un footballeur professionnel, joueur entre autres de l'équipe des Girondins de Bordeaux. Par amour pour Yvette, il fera le choix d'arrêter sa carrière pour pouvoir suivre son épouse. Il deviendra son manager, l'homme de l'ombre, invisible mais indispensable durant tant d'années. À la fin des années 40, Yvette et René s'installent à Nogent-sur-Marne dans une maison absolument incroyable, qu'ils façonnent à leur image. Tout est en forme d'accordéon, la cheminée, les poignées de porte, les balustrades. Yvette enregistre ses premiers albums et donne de nombreux concerts dans les salles parisiennes. Yvette Horner interprétant une transcription de la deuxième rhapsodie hongroise de Liszt dans un enregistrement rare de 1950, déniché par la géniale Nathalie Rouvillain de la discothèque de Radio France. Un grand merci à Nathalie.
Brut d'accordéon, France Musique, Félicien Bru.
Mais c'est en 1952 que tout va basculer. La marque d'électroménager Calor, qui à l'époque sponsorise le Tour de France, demande à Yvette d'accompagner la course. La proposition est un peu décoiffante, car imaginez bien de quoi il s'agit. Il faut jouer sur le toit d'une voiture, en ouverture de la caravane du Tour, tous les jours, en plein soleil, tout au long de l'étape. Mais ce n'est pas tout, car une fois passée la ligne d'arrivée, Yvette court prendre une douche à l'hôtel. Elle aimait raconter elle-même que les moustiques et les mouches se collaient sur son visage tout au long du parcours. Puis elle file sur le podium d'arrivée pour remettre le maillot au vainqueur de l'étape. Alors là, on se dit que la journée était déjà bien chargée. Mais non, ce n'est toujours pas fini. Yvette va ensuite rejoindre son orchestre dans la salle des fêtes du village et fait danser les amoureux du bal toute la nuit. Et le lendemain, que se passe-t-il? Eh bien, elle recommence. Elle va faire cela 11 années de suite, de 1952 à 1963, à se demander si la plus grande sportive que le Tour de France ait connue n'était pas Yvette Horner. Le Tour va en tout cas faire d'elle une vedette immense. Elle sera connue et reconnue de tous, passant dans toutes les villes et tous les villages de l'Hexagone. C'est le début de son immense carrière populaire. C'est aussi le début d'un tournant vers la musique plus populaire. Le son ultra-musette d'Yvette dans La Marche des mineurs, un des tubes qu'elle a composé et interprété dans tous les bals de France des années durant. Parce qu'après ces années Tour de France, Yvette devient donc une star, une véritable star. Elle enregistrera au total plus de 150 albums et vendra 30 millions de disques. Oui, j'ai bien dit 30 millions, toute une époque. Si ses racines se situaient indéniablement dans le répertoire classique, la reine du bal va bien entendu glisser petit à petit vers le répertoire musette, au point d'en devenir le symbole, le fer de lance. Mais Yvette aime toutes les musiques et avec son caractère de feu, elle se permet absolument tout. Alors à ce propos, j'ai une confidence à vous faire. Depuis le mois de septembre et le début de cette émission, j'ai la chance de travailler avec un réalisateur merveilleux. Il s'appelle Lionel Quentin et il est en ce moment même assis en face de moi derrière une vitre et il ne sait pas ce que je vais dire. Il se trouve que Lionel est bien plus habitué au répertoire classique et savant, réalisateur depuis des années de grandes émissions sur cette antenne. Mais côté accordéon, quand nous nous sommes rencontrés en septembre, j'ai vite compris que ce n'était pas forcément son domaine de prédilection. Alors en 4 mois, il en a écouté beaucoup et je crois qu'il commence à aimer cela. Figurez-vous qu'il est fou d'une reprise d'Yvette. C'était en 1972, sur un plateau de télévision, aux côtés de Daniel Gilbert. Yvette reprend le premier tube de musique électronique sorti en 1969 et qui fait fureur. Popcorn. Je ne résiste pas à vous le faire entendre, à vous, cher auditeur, et à mon cher Lionel, évidemment. Je vous disais qu'Yvette se permettait tout, alors la preuve, chez elle, de Popcorn à Offenbach, il n'y a qu'un pas. Un extrait de La vie parisienne de Jacques Offenbach, interprété par Yvette Horner et son orchestre, dans cet enregistrement de 1967. Car il n'est pas rare qu'au milieu d'un bal musette, Yvette décide de stopper les danseurs pour leur jouer quelques airs d'opéra ou d'opérette. Cette liberté, Yvette va la cultiver, la chérir et l'afficher de plus en plus. En 1986, elle vit le drame de sa vie, le décès de son mari. Leur relation était si fusionnelle qu'elle ne se remettra jamais vraiment de son départ. Mais elle lui fait la promesse de continuer à jouer et de continuer à être libre, une femme libre. C'est à ce moment-là qu'elle change de coiffure pour adopter sa chevelure rouge, restée mythique. C'est aussi à partir de ce moment qu'elle va porter des tenues absolument incroyables, certaines dessinées par le fabuleux Jean-Paul Gaultier qui en fait son égérie. En 1989, elle participe aux cérémonies du bicentenaire de la Révolution en donnant un bal gigantesque place de la Bastille. En 90, elle se fait applaudir des mois durant en vedette dans une revue au Casino de Paris. En 1999, c'est sur la scène du théâtre du Châtelet qu'on la retrouve lorsque Maurice Béjart revisite le ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski. Yvette est partout, même là où on ne l'attend pas. En 1994, c'est aux côtés de Boy George qu'elle est l'invitée de l'émission Taratata pour une reprise incroyable de Summertime.
Thank you. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up soon. You're gonna spread your tiny wings and take to the sky. But until that day, you know nothing can harm you. With mommy and daddy standing by.
Yvette a joué partout. Yvette a tout joué. Elle a contribué à rendre l'accordéon incroyablement populaire. Trop populaire, diraient sans doute certains. Mais quoi qu'il en soit, sa liberté, sa capacité de travail acharné, son abnégation et le sacrifice de sa vie personnelle, son courage de femme pionnière dans ce milieu très masculin de l'accordéon, toutes ces choses ont fait et font toujours d'Yvette Horner une personnalité inspirante, une icône. Elle donnera son dernier concert en 2001 et s'éteindra le 11 juin 2018 à l'âge de 95 ans.
One of these mornings, you're gonna rise up soon. You're gonna spread your tiny wings and take to the sky. But until that day, you know nothing can harm you. So hard. I'm getting a rush. I'm getting a rush. Baby, don't you cry.
Yvette Horner et Boy George dans cette reprise de Summertime, célèbre thème signé George Gershwin. C'était en 1994 sur le plateau de Taratata. Et c'est sur cette chanson que nous allons devoir refermer notre rendez-vous dominical, car oui, Brut d'accordéon, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là pour évoquer cette icône de l'accordéon, Yvette Horner, et rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro très différent, une émission dédiée à la musique nord-européenne pour accordéon. Cet épisode est à retrouver dès à présent en podcast sur le site francemusique.fr. Et j'adresse un grand merci à toute la magnifique équipe, Lionel Quentin à la réalisation, Philippe Mercher à la technique, Nelly Portal et Nathalie Rouvilain. Il est bientôt 16h sur France Musique et vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Jérémy Rousseau pour une nouvelle tribune des critiques de disques. Je vous souhaite une excellente fin de week-end, une très bonne semaine et comme dirait Michel, vivement dimanche.
À réécouter sur francemusique.fr.